Voici une question dont la réponse pourra changer votre vie. Est-il possible d'être sauvé par grâce tout en marchant dans le péché? Les Saintes Écritures vont nous donner une réponse qui ouvrira les yeux à plusieurs, aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible.
Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647.
Bonjour, ici Caro. Mes amis, on débute aujourd'hui dans l'enseignement que Paul nous donne dans son épître à Tite, son enfant légitime dans la foi. On a plusieurs questions à lui poser, alors les voici. Dans les dernières années de son ministère, est-ce que Paul a cessé d'enseigner au sujet du retour de Jésus? Est-ce que les instructions que Paul a données à Tite sont valables aujourd'hui? Pourquoi est-ce que l'apôtre Paul a fait circoncire Timothée, mais a refusé de faire circoncire Tite? Quelles sont les caractéristiques de l'Église locale idéale? Est-ce qu'un croyant doit être un esclave de Dieu? Comment est-ce qu'on peut déterminer si quelqu'un est un enfant de Dieu? Qu'est-ce qui transforme réellement une vie? Est-il possible d'être sauvé par grâce tout en marchant dans le péché? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit des personnes qui sont membres d'une église locale sans toutefois avoir reçu le Seigneur Jésus comme sauveur personnel? Est-ce qu'un croyant doit faire partie d'une église locale? Demeurez à l'écoute, le pasteur Régent Joly est sur le point de nous enseigner ce que dit la Bible en réponse à chacune de nos questions. Mais premièrement, prions. Oui, Seigneur, tu parles par la bouche de ton serviteur, mais on sait que cet enseignement vient de toi, de ta parole. Alors touche nos cœurs par ta parole aujourd'hui, viens transformer nos vies, viens nous rendre aptes à te servir d'une manière digne de toi. Parle-nous, Seigneur, on t'écoute. Amen. À toi, Régent.
Merci, Caro. À la dernière émission, nous avons terminé l'étude du livre d'Ézéchiel. Nous avons vu que ce n'est pas parce que Dieu avait choisi Israël et construit son temple à Jérusalem que la nation pouvait se permettre de devenir idolâtre. Dieu a appelé son peuple à la repentance, mais celui-ci n'a pas voulu écouter ses appels. Il a donc permis que son peuple aille en captivité, que Jérusalem soit détruite et le temple brûlé. Ce n'est pas parce que nous sommes membres d'une église que Dieu tolérera que nous péchions. De plus, une église doit aussi demeurer fidèle à Dieu et à sa parole. Dans sa justice et sa sainteté, Dieu a châtié son peuple. Cependant, dans sa grâce et dans son amour, il sera rétabli dans son pays. Ézéchiel a d'abord prophétisé la destruction de Jérusalem et du temple. Ensuite, lorsque tout s'est déroulé selon sa parole, ou plutôt la parole de Dieu, Ézéchiel a porté les regards du peuple vers la restauration de la nation pendant le millénium. Nous avons vu des principes selon lesquels Dieu fonctionne et nous les avons appliqués à notre situation contemporaine. Par exemple, à la dernière émission, nous avons vu que Dieu ne veut pas que ses enfants collaborent avec les apostates pour le servir. Nous avons vu que Dieu se révèle à ceux qui veulent le connaître et le servir. De plus, nous avons vu que si un ouvrier pêche gravement, Dieu peut lui retirer son ministère. Aujourd'hui, nous revenons au Nouveau Testament afin d'y étudier l'épître de Tite. Il semble que l'apôtre Paul et Tite aient travaillé ensemble sur l'île de Crète, Tite chapitre 1 verset 5. Je ne sais pas combien de temps ils ont exercé leur ministère. En étudiant l'épître, nous apprendrons des choses au sujet de la population de l'île et nous voyons que l'opinion qu'avait Paul de ses habitants n'était pas flatteuse. L'apôtre Paul a quitté l'île pour répondre à un autre appel et ensuite il a fait parvenir cette épître à Tite. Il donne des instructions à ce jeune pasteur et il lui explique comment se conduire dans l'église du Seigneur. Il est probable que cette épître ait été rédigée entre l'an 64 et l'an 67. Nous savons que le livre des Actes ne raconte pas toute l'histoire de l'Église néo-testamentaire. En effet, le séjour de Paul et de Tite sur l'île de Crète n'est pas mentionné. En fait, le livre des Actes est très court et il ne met l'accent que sur le ministère de deux apôtres. Dans la première partie du livre, le ministère de Pierre est suivi de près, et dans la deuxième partie, notre attention est dirigée vers le ministère de Paul. Le livre ne nous raconte pas tout ce qu'ont fait ces deux apôtres. Paul a toujours enseigné que le Seigneur Jésus revient. Dans les deux épîtres aux Thessaloniciens, l'apôtre Paul a mis l'accent sur le retour de Jésus-Christ. Nous percevons une note d'espoir dans le ton de Paul. Certains exégètes affirment que c'était la position de Paul au début de son ministère, mais qu'il n'y mettait plus l'accent à la fin de celui-ci. Cependant, l'épître de Tite a été rédigée en même temps que la première épître à Timothée, à la fin du ministère de Paul. Dans l'épître de Tite, nous lisons « En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. » Citation de Tite, chapitre 2, verset 13. Mes amis, Paul avait toujours un œil sur l'espoir de l'Église. Cet espoir réjouissait toujours Paul, et il continuera de nous réjouir, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Citation de 2 Pierre, chapitre 1, verset 19. Timothée et Tite étaient deux jeunes prédicateurs que Paul a eu le privilège de conduire au Seigneur Jésus. Paul les appelle ses fils, ses véritables fils. Il a été l'instrument de Dieu pour les amener à une foi salvatrice. Les instructions de l'Épître sont valables aujourd'hui. Paul a écrit des lettres à ces deux hommes. Il en a écrit deux à Timothée et une à Tite. Nous les appelons les épîtres pastorales, car Paul conseille les deux jeunes pasteurs et leur donne des instructions au sujet de l'Église locale. Les conseils que nous trouvons dans ces lettres s'appliquent encore aujourd'hui, et ils nous sont fort utiles. Nous pourrions probablement remplir une librairie d'ouvrages qui traitent du gouvernement ou de la gestion d'une église locale. Dans l'Écriture, nous n'avons que ces trois brèves épîtres, cependant, elles nous livrent l'essentiel du modus operandi d'une église, les principes principaux selon lesquels une église devrait fonctionner. Cela nous indique que s'il y a une carence ou un besoin dans une église locale, ce n'est pas un problème organisationnel, mais c'est plutôt un besoin spirituel. Ce qui compte, c'est d'être né de nouveau. Timothée est un juif que Paul a circoncis, mais Tite était un grec. Paul a donc refusé de le circoncire. Dans l'Épître aux Galates, nous lisons que lorsque Paul est venu à Jérusalem en compagnie de Tite, Paul n'a pas permis qu'il soit circoncis. Tite, chapitre 2, versets 1 à 3. Cependant, lorsque Paul a accepté Timothée dans son équipe missionnaire, il l'a fait circoncire. Actes, chapitre 16, versets 1 à 3. Paul a circoncis un des jeunes prédicateurs et il a refusé de circoncire l'autre. Si nous devons tirer un principe de cela, c'est celui-ci. Car ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle création. Citation de l'Épître de Paul aux Galates, chapitre 6, verset 15. L'apôtre Paul a dit qu'il voulait se faire tout à tous, afin d'en gagner plusieurs pour le Seigneur Jésus. Il se comportait comme un juif avec les juifs, et avec les non-juifs, il se comportait comme eux. Il a fait circoncire Timothée parce qu'il visitait toujours les synagogues. Cependant, au Concile de Jérusalem, Actes chapitre 15, lorsque le salut par grâce était attaqué, Paul n'a pas toléré le légalisme et il a refusé de circoncire Tite. Dieu veut notre cœur et non des rituels. Mes amis, si l'on rédige un petit code de règlement pour marcher chrétiennement, il est dangereux que ces règlements deviennent des rituels. Si vous n'avez pas une relation personnelle et intime avec le Seigneur Jésus, vous n'avez rien du tout. Vos règlements et vos rituels sont inutiles. Dans cet épître de Tite, nous avons la description d'une église néo-testamentaire bien organisée et florissante. Parfois, des personnes affirment être membres d'une église néo-testamentaire. Je suis tenté de leur demander si quelqu'un est tombé mort récemment dans leur église. Je suis certain qu'ils répondraient négativement. Eh bien, dans l'église de Jérusalem, Ananias et Saphira sont morts sur place parce qu'ils ont menti au Saint-Esprit. Actes chapitre 5. Si ce principe était encore fonctionnel aujourd'hui, je crains qu'il faudrait transformer les églises ordinaires en salons funéraires. Trois caractéristiques de l'église locale idéale. Selon cet épître, l'église idéale est bien organisée et elle fonctionne avec ordre et discipline. Sa doctrine est saine, c'est-à-dire fidèle à l'enseignement des apôtres. Elle marche dans la piété et la sainteté et elle est prête à accomplir toute bonne œuvre. C'est la description d'une église néo-testamentaire que nous donne cet épître. Dans les épîtres à Timothée, Paul mettait l'accent sur la nécessité d'une doctrine saine. Dans l'épître à Tite, Paul met l'accent sur l'importance de fonctionner avec ordre dans l'église locale. En fait, Tite chapitre 1 verset 5 est le verset clé de l'épître. Le voici. « Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que, selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. » Tite devait aider les églises à s'organiser. Dans le premier chapitre, Paul dit qu'une église doit être organisée et fonctionner avec ordre. Toujours Tite chapitre 1 verset 5. Dans le deuxième chapitre, il souligne que l'église doit enseigner et prêcher la parole de Dieu. Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la sainte doctrine. Tite chapitre 2 verset 1. Une église locale doit avoir une doctrine saine. Finalement, au chapitre 3, l'apôtre Paul dit que l'église doit accomplir de bonnes œuvres. Rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir, d'être prêt à toute bonne œuvre. Tite chapitre 3 verset 1. Autrement dit, l'Église est sauvée par grâce, elle doit marcher par la grâce et elle doit démontrer sa foi au public par de bonnes œuvres. Il est très difficile aujourd'hui de trouver une Église qui fonctionne pleinement avec ces trois éléments, c'est-à-dire qui réussit à mettre l'accent sur ces trois choses. Une Église peut mettre l'accent sur un élément et une autre sur un autre élément. Examinons ces trois éléments de plus près. Une église doit être bien organisée. Premièrement, une église doit être bien organisée. L'apôtre Paul a dit que tout devait se faire avec bienséance et avec ordre. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 40. Parfois, il y a peu d'ordre dans une église, et cela c'est parce que un ou deux anciens ou un ou deux diacres veulent tout contrôler. Une telle église est en difficulté et son pasteur doit en souffrir. Une église doit fonctionner avec ordre et ne pas être contrôlée par un ou deux diacres. L'église doit enseigner une doctrine saine. Deuxièmement, certaines églises ne mettent pas l'accent sur un bon enseignement biblique, sur une doctrine saine. Je conseille toujours à un jeune pasteur de ne pas chercher à avoir une grande église ou à se construire un empire quelconque. Je leur dis simplement d'enseigner la parole de Dieu. Plutôt que de faire croître une organisation avec des propriétés, ils devraient affermir et édifier les croyants. Toute organisation qui a été érigée avec une église comme fondement sera détruite par une personne qui succédera au pasteur. Cela brisera le cœur du pasteur, à moins qu'il se soit d'abord préoccupé d'édifier les croyants. C'est là qu'une église locale doit mettre l'accent. L'église doit faire des bonnes œuvres. Finalement, une église locale doit être prête et disposée à pratiquer de bonnes œuvres. Parfois, nous mettons l'accent sur la doctrine au détriment de l'activité. Nous ne pouvons pas trop mettre l'accent sur une doctrine saine, mais nous pouvons négliger les autres éléments. Une église devrait accomplir de bonnes œuvres. Certaines organisations se concentrent tellement de cueillir de l'argent pour leurs projets qu'elles deviennent plus intéressées à encourager les gens à contribuer financièrement aux projets qu'à édifier les chrétiens. De nombreuses personnes ont besoin d'aide, non seulement spirituelle, mais matérielle. Nous devons chercher des moyens d'aider ces gens. Je suis heureux de constater que de nombreuses églises ont développé des ministères pour aider les gens. Je connais une église dont des membres visitent des personnes malades et confinées à leur chambre d'hôpital ou de foyer d'accueil. Elles leur font la lecture et les aident en faisant un peu de couture pour elles. Les gouvernements font beaucoup aujourd'hui pour ces personnes, mais nous pouvons toujours les visiter, les écouter. Ce type de ministère est utile aujourd'hui. Ceci n'est qu'un bref résumé de l'Épître à Tite. Des églises libérales mettent tout l'accent sur ce troisième volet, les bonnes œuvres. Cependant, elles négligent l'ordre et l'enseignement dans l'Église. Cependant, si une Église ne trouve pas un équilibre juste entre les trois volets mentionnés, elle ne peut pas prétendre être une Église néo-testamentaire. Les trois chapitres de cet épître forment les trois divisions majeures du livre. Premièrement, l'Église est une organisation. Deuxièmement, l'Église doit enseigner la parole de Dieu. Et troisièmement, l'Église doit accomplir des bonnes œuvres. Chers amis, débutons notre lecture de la lettre de Paul adressée à ce jeune Tite. Lisons Tite chapitre 1, verset 1. « Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ, pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité qui est selon la piété. » La salutation de cette épître est typique de celle des épîtres pastorales, mais pas des autres épîtres de Paul. Quel type d'esclave est Paul, serviteur de Dieu? Le mot grec traduit serviteur est doulos, et il signifie esclave. Paul dit qu'il est un esclave de Dieu. Paul réfère au type d'esclavage volontaire décrit dans Deutéronome, chapitre 15, versets 16 et 17. Un esclave, homme ou femme, qui se trouvait bien chez son maître et qui ne voulait pas le quitter, pouvait demander à rester dans sa maison. Il devenait alors son esclave pour la vie. L'apôtre Paul affirme être ce type d'esclave, apôtre de Jésus-Christ. Puisque Paul va donner des instructions pour l'organisation et le fonctionnement des églises, il réaffirme son autorité en rappelant à Tite qu'il est un apôtre. Ces instructions viennent d'un apôtre, un communicateur désigné par le Seigneur Jésus, qui transmettait des instructions à son Église par la plume de son apôtre. L'Épître à Tite est aussi une communication divine qui s'adresse à nous. Par la foi des élus de Dieu. Notez comment la version Darby traduit ce premier verset de l'Épître. Paul, esclave de Dieu et apôtre de Jésus-Christ selon la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité qui est selon la piété. Notez aussi ce que dit la Bible Martin. Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ selon la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité qui est selon la piété. C'est la préposition « selon » qui est employée plutôt que la préposition « pour ». Cette traduction est justifiée puisque la préposition grecque « kata » signifie « selon ». L'apôtre Paul affirme donc qu'il est serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ selon les normes et les critères de la foi établis pour les élus aujourd'hui. Votre salut ne repose pas sur ce que vous croyez ou votre compréhension doctrinale. Dites-moi plutôt ce que vous pensez de Jésus-Christ, de sa mort sur la croix, et quelle importance cela a pour vous? Dites-moi si vous croyez que la Bible est la parole de Dieu. C'est avec votre réponse à ces questions que je vais déterminer si vous êtes un enfant de Dieu ou non. Ceci est la norme, selon la foi des élus de Dieu. Élus de Dieu. Ici, Paul ne parle pas de la doctrine de l'élection, mais c'est son expression pour désigner les croyants sauvés par la foi. La vérité divine transforme les vies, et la connaissance de la vérité qui est selon la piété. Mes amis, si la vérité que vous avez reçue ne transforme pas votre vie de sorte que vous marchez dans la piété, quelque chose de fondamental ne va pas. Mes amis, la vérité, celle qui vient de Dieu, transforme les vies. Elle est l'instrument de la grâce de Dieu pour nous transformer. Parfois, nous voyons des prédicateurs à la télévision ou sur l'Internet et ils remplissent des stades. Si nous les écoutons attentivement, nous observons que plusieurs enseignent de la psychologie populaire en employant du vocabulaire chrétien. Cependant, où sont toutes les vies transformées par leurs prédications? lorsque le déploiement de pompes, lorsque la musique et les beaux discours émotionnels sont terminés, la vie des auditeurs est-elle transformée? Les gens marchent-ils dans la piété? Mes amis, là où la parole de Dieu est enseignée fidèlement et avec ferveur, les vies sont transformées, lorsqu'il est évident que la vie du prédicateur a été transformée par ce qu'il prêche, la vie des auditeurs sera aussi transformée. Paul mettra l'accent sur ce thème dans l'Épître à Tite parce que les habitants de l'île de Crète abusaient de la grâce de Dieu. Ils pensaient qu'ils pouvaient vivre comme bon ils l'entendaient, puisqu'ils étaient sauvés par la grâce de Dieu. Paul va donc souligner le fait que lorsque l'Évangile est cru ou reçu, les croyants marchent dans la sainteté et la piété. La grâce nous sauve, mais elle nous enseigne aussi à marcher dans les voies de Dieu. Vous ne pouvez pas utiliser la doctrine de la grâce de Dieu pour tolérer du péché dans votre vie. Si vous pensez que vous pouvez être sauvé par grâce et vivre dans le péché, et, je vous le dis avec amour, vous n'êtes pas sauvé par la grâce. Le salut par grâce conduit à une marche dans la sainteté et la piété. Mes amis, avant d'aller plus loin dans l'étude de cet épître, j'ai une question à vous poser, une question que vous devriez répondre pour vous-même dans votre cœur. Faites-vous partie de l'Église du Seigneur Jésus? Faites-vous partie du corps de Christ qui est son Église, l'ensemble de tous les croyants qui ont reçu le Seigneur Jésus-Christ comme sauveur personnel? Si vous êtes membre d'une église locale et que vous n'avez jamais reçu le Seigneur Jésus comme sauveur personnel, vous êtes de l'ivraie qui a été semée à travers le blé dans la parabole. Il leur proposa une autre parabole et il dit, « Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie ?» Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous allions l'arracher ?»« Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. » Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson, et, à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie, et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Citation de l'Évangile selon Matthieu chapitre 13, les versets 14 à 30. Devenez du blé en recevant le Seigneur Jésus comme sauveur personnel pour le pardon de vos péchés et la vie éternelle. Par contre, certaines personnes ont reçu le Seigneur Jésus, mais elles ne fréquentent pas une église locale, car elles jugent que faire partie du corps de Christ, de l'Église universelle, est suffisant. Non, mes amis. Paul donne des instructions aux églises locales et il en a établi parce que c'est important. Les croyants doivent se réunir afin de s'aider à grandir spirituellement. Dieu a donné à chaque croyant au moins un don pour servir le corps de Christ ou l'Église. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Citation de 1 Pierre chapitre 4, verset 10. Bien que nos frères et sœurs ne soient pas toujours à la hauteur de nos attentes, nous aussi, nous les décevons. Cependant, Dieu nous appelle à nous fréquenter et à nous entraider à grandir mutuellement. Joignez-vous à une église qui enseigne fidèlement la Bible et mettez-y votre don à la portée de tous. Chers amis, préparons-nous pour la prochaine émission en lisant Tite, chapitre 1, les versets 1 à 7.
Merci, Régent. Tu nous as enseigné aujourd'hui trois caractéristiques d'une église locale. Tu as dit qu'elle devait être bien organisée, qu'elle devait enseigner la saine doctrine et qu'elle devait faire de bonnes œuvres. Eh bien, je suis heureuse de faire partie d'une église qui pratique ces trois choses. Mais j'aimerais m'arrêter sur la troisième, parce que c'est quelque chose que nous faisons plus particulièrement ces temps-ci. Ce n'est pas que nous ne le faisions pas autrefois, mais Dieu touche nos cœurs d'une manière spéciale ces temps-ci, pour ce qui est de faire des bonnes œuvres. Mes amis, on sait bien qu'on n'est pas sauvé par les œuvres, par les bonnes œuvres. Mais, comme le dit l'épître de Paul aux Éphésiens, on a été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, afin qu'on les pratique. Vous pouvez le lire vous-même dans le deuxième chapitre de l'épître aux Éphésiens au verset 10. Tout ça pour dire que dernièrement, notre Église a décidé de donner davantage pour les missionnaires que nous soutenons. Et nous avons fait un plan pour faire des levées de fonds. Et ça marche. Certains vendent du pain et même des beignes. Un frère qui est doué pour la photo fabrique des cartes de souhait magnifiques qu'il nous vend et dont les profits vont pour cette œuvre missionnaire. Et une sœur est en train d'organiser un dîner aux crêpes bretonnes et les profits iront dans la même direction. Aussi, un certain dimanche, 50 frères et sœurs de notre église locale sont partis après le temps de louange et ont passé le reste de la matinée à aider une œuvre de bienfaisance qui se nomme la Guignolée. Je crois que cet organisme offre des cadeaux de Noël et de la nourriture à des gens qui en ont moins que nous dans le temps des fêtes. Et nous contribuons aussi à un autre organisme qui donne de la nourriture à ceux qui en manquent dans notre communauté. Quelle joie pour l'Église de participer ensemble à tout cela. Dans le 10e chapitre de l'Évangile de Matthieu, au verset 8, Jésus nous dit « Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. » Mes amis, il y en a peut-être parmi vous qui vous demandez ce qu'on a bien pu recevoir gratuitement. Eh bien, permettez-moi de vous l'expliquer. Dans l'Épître de Paul aux Romains, au chapitre 3, au verset 23-24, il est écrit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et il ajoute qu'ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Et dans le 6e chapitre de la même épître, au verset 23, il est écrit que le salaire du péché, c'est la mort, mais que le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Mes amis, le salut qu'on a reçu, la vie éternelle, c'est gratuit. Ça l'a été pour moi quand je l'ai reçu en 1977, et c'est toujours gratuit pour vous maintenant. Mais c'est un cadeau qui a coûté très cher à Dieu le Père, qui nous a tant aimés qu'il a donné son Fils unique, afin qu'en croyant en lui, on puisse avoir la vie éternelle. Alors mon ami, aimerais-tu recevoir ce cadeau maintenant, ce cadeau gratuit? Tu peux le recevoir si tu crois de tout ton cœur que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il s'est fait homme pour venir payer la dette de nos péchés en mourant sur la croix. Alors demande tout simplement à Jésus de te sauver, de te donner la vie éternelle. C'est gratuit. Tu vas recevoir ce beau cadeau gratuitement. Régent, je pense que les gens comprennent pas exactement c'est quoi un déjeuner de l'espoir. Pourrais-tu l'expliquer?
Avec joie, Caro. Les gens sont invités à venir participer à un déjeuner de l'espoir qui se déroule dans un restaurant. Un endroit où les gens sont habitués à venir. Qui n'a pas pris un repas dans un restaurant? C'est un lieu public. Alors, les gens viennent, ils y assistent et ils peuvent manger gratuitement.
Wow!
Gratuitement, en plus d'entendre un merveilleux témoignage, c'est ça qui fait que le déjeuner est merveilleux, c'est qu'il y a un témoignage d'une personne. Ça pourrait être toi, Caro, ou moi, ou une toute autre personne qui a vécu une expérience personnelle avec Dieu. Comment est-ce que Dieu a transformé, a changé, je pourrais même dire bouleversé sa vie?
Eh oui, Dieu a vraiment bouleversé la mienne et j'aime ça raconter ça. J'aime ça aussi pouvoir chanter mes anciens succès. C'est le fun de voir les gens qui rient d'entendre toutes ces anciennes chansons-là. Et finalement, je leur dis ce que Dieu a fait pour moi. Puis c'est merveilleux. C'est bon dans mon cœur de l'annoncer aux gens combien Dieu les aime. Et ça se fait à la grandeur du Québec.
Comment peut-on savoir s'il y en a un près de chez nous?
Eh bien, vous pouvez nous rejoindre par téléphone.
1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647 ou via courriel
à www.radioespoir.ca ou à notre adresse postale.
Radio Espoir, casier postal 34-143 Charlebourg, province de Québec, G1G-6P2. Chers amis, au revoir.
Bye-bye.
Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.